Je ne sais pas pour vous, mais parfois j'ai la sensation que les politiques ne défendent pas forcément les idées qu'on aimerait qu'ils soutiennent. Et on aimerait avoir un impact, on aimerait que ça bouge, et finalement, ça bouge pas tant que ça. Et c'est pour ça qu'on parle de lobby citoyen. Lobby, c'est un mot qui a l'air d'avoir une connotation négative, mais je reçois aujourd'hui Alberto Alemano, qui est un Italien et qui a créé The Good Lobby, donc qui est un lobby pour le bien. Donc ensemble, on va discuter de comment on peut avoir un lobby citoyen au niveau européen, mais aussi qu'est-ce que c'est que le bien, précisément, et comment on peut avoir un impact positif sur la planète et sur l'Europe. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour Alberto.
Bonjour.
Donc Alberto, donc t'es juriste, t'es prof à HEC et à NYU, donc à New York, de droit. Mais surtout, surtout, t'es un entrepreneur civique et t'as créé The Good Lobby. Et en fait, la première question que j'ai, c'est marrant parce que ce terme de lobby, je pense que dans l'imaginaire collectif, il a des connotations plutôt négatives. C'est-à-dire que quand on pense lobby, on pense pharmaceutique, on pense grosses entreprises, on pense pas lobby citoyen. C'est quoi un lobby citoyen?
Et tout à fait, la connotation du terme lobbying est négative aujourd'hui. Lorsqu'on pense au lobbying, on pense justement à des activités des grands groupes industriels qui s'organisent. Mais en fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que les lobbying, ce n'est rien d'autre que la possibilité que n'importe quel acteur en société a d'exprimer des préférences. Mmh. Ce que les Américaines appellent « voice », donc avoir une voix, acquérir une voix. Et finalement, les lobbying, aujourd'hui, c'est une activité non seulement légitime, mais c'est une activité qui est également encouragée par les autorités publiques, à savoir la ville de Paris, la France, les gouvernements, l'Europe, veut que les citoyens puissent s'exprimer sur des nouvelles initiatives qu'ils pourront prendre. Comment la ville de Paris doit se positionner par rapport au changement climatique? Est-ce qu'il faut dépenser de l'argent public pour créer des pistes cyclables ou plutôt créer un parc public? Ou encore prendre des décisions plus radicales comme imposer un impôt à tous les titulaires d'une voiture qui rentrent en ville? C'est des choix des politiques publiques, comme il y en a beaucoup, qui existent au niveau local, au niveau national, au niveau européen, par rapport auxquels les institutions aujourd'hui demandent aux citoyens d'exprimer leurs préférences. Et lorsque les citoyens font ça, ils font du lobbying. Pourquoi ils font du lobbying? Parce que finalement, ils sont en train d'influencer un processus décisionnel qui touche à une politique publique qui change leur vie et qui va déterminer la qualité de leur vie, leurs possibilités, les chances de leurs enfants, de leur famille, de s'épanouir. Donc, mon objectif avec The Good Lobby, c'est tout d'abord de démystifier les lobbying. Les lobbying comme une pratique de démocratie citoyenne. N'importe quelle personne peut le faire, de communiquer, en fait c'est même un droit et presque un devoir, de communiquer avec nos décideurs. Ça peut être le maire même, ça peut être un conseiller municipal, ça peut être un adjoint, ça peut être un ministre, ça peut être un élu, n'importe à quel niveau. Et nous, on aime bien travailler avec l'Europe. Parce que l'Europe est beaucoup plus sensible, on ne le dirait pas, hein, mais elle est beaucoup plus sensible à tout appel, à toute voix qui provient des citoyens. C'est vraiment contre-intuitif, mais si on envoie un courriel, un email à un fonctionnaire européen, il est censé nous répondre dans les 15 jours. Lorsque j'envoie un mail à Bercy, ou encore à notre ministère ici en France, ou parfois j'attends des mois. Et donc finalement, les vrais paradoxes, les lobbying aujourd'hui, c'est quelque chose que n'importe qui peut exercer, et notamment, on peut attirer l'attention de l'Union européenne, de nos représentants politiques et des institutions européennes, afin qu'ils puissent résoudre des problèmes locaux. Parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui en Espagne, je vous donne un exemple, que c'est l'accès au réseau des Wi-Fi, c'est les mêmes problèmes qu'on a en France, dans les zones rurales, ou en Finlande, ou encore au Portugal. Eh bien, ce problème-là, qui est très local, est un problème commun par rapport auquel, si nous, citoyens, on s'organise, on pourra obtenir des interventions et des nouvelles politiques qui vont résoudre le problème. Donc un nombre grandissant des gens pourront avoir accès aux télécoms, au téléphone, accès aux données, ce qui aujourd'hui est assez discriminatoire.
Mais alors du coup, les élections européennes, là on est vendredi, pour être tout à fait transparent, donc les élections européennes, elles n'ont pas eu lieu, elles ont eu lieu dimanche. Je ne sais pas précisément, mais a priori le taux d'abstention va être hyper fort. Est-ce que l'idée, c'est pas, quand on vote, est-ce que ce n'est pas ça qu'on fait déjà finalement? Alors pourquoi créer un lobby supplémentaire?
Les votes ne suffisent plus parce que la démocratie représentative aujourd'hui a montré ses limites, à savoir la démocratie ne peut pas tout simplement se réduire à un vote tous les 5 ans, tous les 4 ans. Il faut que le système politique même évolue, ne peut pas rester les mêmes qu'on a eu pendant des siècles, et qu'on puisse créer des opportunités de participation qui vont au-delà du vote. Donc le vote, c'est vraiment la première forme d'engagement, quelque chose qu'il faut faire, qu'on continuera à faire dans l'histoire. Mais ça ne suffit pas, non seulement d'un point de vue de la perspective du citoyen, mais comme je disais tout à l'heure, même de la perspective du décideur. Les décideurs ont besoin de rester en contact avec ses citoyens. En France, c'est un cas assez emblématique, parce que la classe politique est très détachée et très lointaine par rapport à la population. D'ici, les mouvements des Gilets jaunes, qui a en fait eu la force de mettre sur la table un vrai problème, le décalage existant entre la classe politique comme une communauté à part de la société même. Donc il faut créer des nouveaux canaux de participation, et ces canaux de participation pourraient prendre la forme des lobbying, parce que c'est un outil qui est déjà à disposition, mais qui tout simplement on n'exerce pas, on ne le fait pas assez. Mais lorsqu'on les fait, on peut obtenir des résultats.
Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que les gens, quand ils ne vont pas voter, qui vont pas voter ou qui votent blanc, c'est justement parce qu'ils voient pas de résultats. C'est-à-dire que on vote pour un parti, puis finalement, il applique un programme qui est pas du tout celui qu'il avait dit pour se faire élire. Voire il y a un autre souci qui est la manipulation, et on voit que les partis extrémistes s'engagent. Enfin, les gens qui votent ce genre de parti, en tout cas, s'engagent beaucoup plus que les gens qui sont plus démocrate, on va dire. Donc il y a ces deux choses qui sont...
Tout à fait. Je pense qu'il y a un problème de rédévabilité, il y a un problème de responsabilité. Aujourd'hui, il est très difficile pour un citoyen de savoir quel est l'impact que son vote va avoir dans les systèmes politiques. Il y a pas mal d'études dans la littérature de la politologie, en politologie américaine, qui démontrent comme les votes individuels a un impact qui est statistiquement non significatif. Donc, n'échange pas finalement la direction des choses. D'ici la nécessité de rendre la démocratie représentative, les votes, démocratie électorale, on pourrait l'appeler, avec des formes complémentaires d'engagement, parmi lesquelles les lobbies citoyens. C'est une façon de s'assurer que les élus restent sous contrôle. Donc on leur rappelle, après les avoir votés, qu'ils étaient quand même censés faire quelque chose vis-à-vis de nous. Et si nous avons des idées qu'eux-mêmes n'ont pas eues, ou elles-mêmes n'ont pas eues, on pourra partager ces idées. Et ça, c'est vraiment l'idée clé du lobbying citoyen. La possibilité d'attirer l'attention de nos décideurs à des questions sociétales qui existent en société, mais que les systèmes politiques n'ont pas réussi à capturer. Je vais vous donner un exemple. En 2012, lorsque j'ai commencé, ça fait déjà 2-3 ans que j'enseignais à HEC et je donnais un cours de droit et politique européenne, j'ai donné l'exemple à mes étudiants des frais d'itinérance. Les frais d'itinérance étaient une chose qui représentait un obstacle à la libre circulation des citoyens, qui empêchait aux jeunes étudiants ou même de jeunes chercheurs d'emploi de rester en contact avec leur famille, parce que c'était trop cher de recevoir même des appels lorsqu'on sortait de la France. Et alors, avec mes étudiants de l'époque, nous avons enregistré la première initiative citoyenne européenne. Nous avons récolté de signatures, un nombre insuffisant pour obtenir une réponse institutionnelle de la part de la Commission européenne. Mais c'était suffisant pour mettre cette question sociétale sur la table et permettre à des politiciens entrepreneurs d'acheter cette idée, de la présenter comme leurs idées. Ça ne nous intéresse pas, finalement, la paternité. On n'invoque pas la paternité. Ce qui compte, c'est qu'eux-mêmes, ils sont faits porteurs d'une idée très importante qui était présente en société, qui dans leur programme politique n'existait pas. Et après quelques années, en 2015, les frais d'itinérance ont disparu. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples des cas où nous avons eu cette capacité en Europe, dans différents pays, mais d'attirer l'attention des décideurs sur des questions nouvelles, comme les lanceurs d'alerte. Donc la France a une législation qui protège les lanceurs d'alerte, mais c'est une des exceptions, avec le Royaume-Uni, l'Irlande, la Slovénie.
On ne soit pas Julien Assange non plus. Hein.
Non, mais en France, il a eu un débat sociétal sur la nécessité de protéger les citoyens qui sont employés dans le secteur public et privé et qui dénoncent des comportements qui sont illégaux et qui donc vont contre l'intérêt public. C'était une vraie question en 2013-2014 avec Edward Snowden qui était en fait sous capture, sous mandat de capture américain, mais en même temps était célébré comme un héros de la vérité. Et à ces moments-là, en Europe, personne ne voulait parler de lanceurs d'alerte. Il n'y avait pas de partis politiques qui voulaient se positionner là-dessus. On les a obligés à le faire. Et on a réussi à amener la Commission européenne à faire une proposition. Et les parlements et les conseils, les États ont tous adopté une directive qui va protéger les lanceurs d'alerte dans tous les pays européens. Donc tous les pays doivent créer un système de protection. Et le système français probablement devra changer parce qu'il n'est pas entièrement en ligne avec ce que la protection minimale qui a été introduite par l'Union européenne pourra faire. J'ai plein d'autres exemples. Les derniers que je vais citer parce que ce public peut être intéressé, c'est le travail qu'on mène par rapport à la question des stages non rémunérés. C'est un phénomène très répandu qu'on a de facto institutionnalisé. C'est-à-dire que c'est assez normal du côté employeur et du côté jeune travailleur d'accepter de travailler gratuitement. Mais il est quelque chose d'absolument illégal d'un point de vue de la protection des droits travailleurs qui va contre la dignité humaine. Et malheureusement, notre système économique s'est un peu habitué à cela et il y a évidemment des abus. Et donc là, de manière toujours changement systémique, on a essayé d'identifier le pays où la situation était la situation la plus frappante, à savoir la Belgique, où les 67% des jeunes diplômés dans les différents secteurs, doivent travailler au moins 6 mois gratuitement pour trouver un emploi. Et on a dénoncé ça au Conseil de l'Europe. Donc on est sorti de l'Union européenne, on est allé au Conseil de l'Europe à Strasbourg pour montrer que cette situation n'était pas acceptable. Et on attend une réponse. Mais si les Conseils de l'Europe devaient nous donner raison, tous les États, en fait, le Conseil de l'Europe, c'est énorme, il y a la Russie aussi là-dedans, c'est 45 pays, devront changer leur législation et commencer à être beaucoup plus sérieux par rapport à, au seuil des tolérances des stages non rémunérés, donc de différentes formes des stages qui existent dans les différents pays.
Et du coup, comment ça fonctionne, The Good Lobby? C'est-à-dire que c'est vous qui mettez des idées en place et après les gens peuvent voter pour ces idées? Comment ça fonctionne en fait?
Oui, l'intuition derrière The Good Lobby, c'est la prise de conscience que dans la société, nous avons un problème, à savoir nous avons une manque des voix, une manque de capacité de justement de faire d'exercer un contrôle sur nos décideurs, parce qu'on ne sait pas comment le faire. Il y a une puissance, un sentiment d'impuissance, mais en même temps notre société est très éduquée et assez riche. De plus en plus il y a eu des atteintes des vies qui sont importantes, donc il y a un sort de paradoxe, parce que nous avons un problème et nous avons également une solution qui coexiste en société. Et donc des Good Lobby, de manière très provocatoire, essayent de finalement dire pourquoi on ne va pas faire rencontrer la demande d'expertise, d'outils, des talents de la société civile, des citoyens, des groupes de citoyens, des ONG, et l'offre qui existe en société, des professionnels, des employés qui sont disposés à donner une partie de leur temps et donc les dédier à ces types de causes. C'est comme ça qu'on travaille. On est à l'écoute de la société civile au sens large. Tout récemment, nous avons un groupe belge qui nous a contactés, qui est très préoccupé par rapport à l'utilisation du gazon, et donc à la cultivation du gazon, le fait qu'on a beaucoup de gazon, donc beaucoup de verre, de la verdure un peu dans nos maisons, notamment dans les zones privées, dans les particuliers. Et on trouve que cet usage du gazon est problématique par rapport à l'usage d'eau et l'usage des pesticides. Évidemment, ça va un peu contre la prise de conscience environnementale aujourd'hui, qu'on discute autant du changement climatique et notamment de l'érosion de la biodiversité. Et donc, on les aide à rencontrer des experts dans la matière qui pourraient transformer leur intuition, leur campagne, dans une vraie campagne professionnelle qui pourra amener les autorités belges et peut-être en Europe, peut-être en France, dans d'autres pays, afin qu'ils puissent s'imaginer des politiques qui vont dissuader la cultivation du gazon et créer peut-être des règles visant à l'usage d'autres formes de gazon, du gazon qui n'a pas besoin d'eau, ou le passage à un jardin du type japonais où on utilise plutôt des pierres, des cailloux, au lieu d'avoir du gazon. Donc c'est des nouvelles tendances qui sont présentes en société, que les systèmes politiques ne parviennent pas à saisir. Nous, on les cultive, on les incube, on est un incubateur des projets civiques avec des Good Lobby, et on les met en contact avec les grands experts. Donc, en moyenne, on a une douzaine de personnes qui travaillent sur chaque projet et travaillent ensemble. Et il y a une grande diversité, on humanise également la société, parce que tu as un grand avocat ou un grand professionnel en communication qui travaille avec un jeune citoyen ou avec un retraité, parce que tout est possible. Et ils travaillent ensemble pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, nous, on exerce une sorte de contrôle des qualités sur la poursuite du projet. Et ensuite, on les accompagne jusqu'à quand les projets décollent. C'est dans les cadres de Good Lobby qu'on a découvert, par exemple, on a rencontré Greta Thunberg, bien avant qu'elle devienne si connue. Parce qu'en septembre passé, elle avait postulé parmi les candidats au prix des Good Lobby, ça s'appelle des Good Lobby Awards, donc c'est les prix des Good Lobby. Il faudra absolument impliquer.
Rappelle qui est Greta.
Tous les citoyens pourront le faire. Greta Thunberg, c'est la jeune Suédoise qui a 16 ans maintenant et qui a décidé de ne plus aller à l'école le vendredi pour finalement dénoncer l'omission des autorités publiques suédoises, dans ces cas, par rapport au changement climatique. Donc elle a dit, bon, c'est vous, autorité, vous ne prenez pas des mesures par rapport au changement climatique, vous ne devenez pas sérieux par rapport au changement qui est en train de se produire, moi, je continuerai à ne pas aller à l'école les vendredis parce que vous n'êtes pas sérieux. Et donc, ces mouvements de grève des étudiants du vendredi, Friday for Climate, c'est devenu un mouvement qui est allé bien au-delà de la Suède. À l'époque, c'était très suédois lorsqu'on l'a rencontré. Et aujourd'hui est tellement répandu qu'il est devenu une organisation. Mais une organisation qui, en fait, n'est pas hiérarchisée, n'est pas institutionnalisée, mais qui tout simplement a été capable de saisir un besoin sociétal et à le transformer dans une forme de désobéissance sociale, une désobéissance également légale, parce que les étudiants, en principe, ils devraient, à cet âge, aller à l'école. Ils n'y vont pas, justement, pour signaler une faille dans les systèmes politiques, dans les systèmes sociaux, dans les systèmes environnementaux. Et c'est là à donner lieu à un vrai mouvement. Donc, souvent, j'ai dit, des good lobbies essayent de démystifier le lobbying et de promouvoir des formes de participation comme celle des Greta. Mais malheureusement, aujourd'hui, on connaît seulement l'exemple des Greta. On ne connaît pas les autres milliers d'histoires qui existent en société, dans les banlieues des France, dans les banlieues d'Italie, d'Allemagne, de la Suède, et même au-delà de notre continent, ou dans les continents africains qui est énorme et qui a un potentiel. Il y a beaucoup de capital humain également à motiver, à exploiter, avec des nouvelles formes de ce qu'on appelle les bénévolats de compétences. Donc, deux idées porteuses, je dirais. La première idée, c'est les lobbies comme nouvelle forme des pratiques démocratiques. Et la deuxième idée, faire du bénévolat de compétences pour permettre à ces jeunes ou moins jeunes qui ont une belle idée pour défendre leur communauté, pour batailler pour une cause qui est juste, de trouver des ressources en société. Parce que les problèmes structurels, c'est toujours l'accès aux ressources, l'accès au pouvoir. Et aujourd'hui, l'accès au pouvoir n'est pas égalisé. L'accès au pouvoir est très différencié par rapport à la force des frappes de l'acteur qui frappe la porte. Et donc, les bénévolats de compétences qu'on cultive dans les Good Lobby, c'est un moyen pour permettre à un nombre grandissant de gens de avoir une voix et donc d'exercer une pression, un contrôle sur les décideurs.
Mais alors justement, tu parlais d'écologie. Est-ce que les entreprises, elles ont vraiment un pouvoir encore face aux entreprises? On a l'impression que quand on voit ce qui se passe en France avec Macron, entre autres, qu'en fait, elle cède tout au pouvoir économique, finalement, aux entreprises. Finalement, quand on parle de révolution écologique, c'est un triptyque. Finalement, il y a le rôle des individus, le rôle des entreprises et le rôle de l'État. Et on a un peu la sensation que l'État, ils sont un peu à la traîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les partis disent qu'ils sont écologiques, mais on voit bien que ça bouge peu, pas vite. Alors, bien sûr, le gouvernement en place, ils pourront toujours dire qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, ce qui est vrai, hein. Mais on a l'impression que ça va pas assez vite par rapport à l'importance de la problématique, en fait.
Oui, la nature des défis qu'on se trouve aujourd'hui à faire face a changé énormément. Donc, la nature même de ces problèmes est assez pan-européenne, va au-delà de l'État-nation. Et donc appelle des solutions que même un État puissant comme l'Allemagne ou la France ne sont pas capables de résoudre toutes seules. Donc ça, c'est déjà un premier élément qu'il faut considérer. L'autre élément, qui est évidemment difficile à reconnaître pour un juriste comme moi, c'est la prise de conscience par rapport à l'inefficacité de la loi et du droit et des politiques publiques toutes seules de fonctionner. Parce que finalement, la société est beaucoup plus complexe. Le fait d'imposer aux gens un certain comportement ou l'augmentation du prix de l'essence dans ces pays n'est pas porteur d'un changement sociétal. Et donc, les droits peuvent accélérer, les politiques publiques peuvent accélérer certains processus, mais finalement, ce qui compte, c'est les changements de la norme sociale. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la nature des problèmes auxquels on fait face demande une coopération, et je suis d'accord avec toi, une collaboration étroite entre les autorités publiques qui deviennent de plus en plus faibles ou pas capables toutes seules de résoudre ces problèmes de cette portée, les secteurs privés qui restent très très puissants par rapport à sa capacité d'investir, d'employer, de façonner notre société et la société civile au sens large et donc l'individu. Et donc, si on ne trouve pas des nouvelles formes de gouvernance qui permet à ces trois acteurs de travailler ensemble, il sera très difficile, simplement avec les politiques publiques, c'est un peu l'obsession de ces gouvernements français et de Macron, que si on délivre les politiques publiques, la société sera contente. En fait, ça ne suffit pas. Parce que même si on adopte les meilleures lois, les meilleures politiques, et ces politiques-là ne sont pas acceptées, donc ils n'ont pas une légitimité démocratique, mais surtout une acceptation sociale, on ne pourra pas vraiment faire les changements. Et je pense que les Gilets jaunes ont justement signalé ces phénomènes-là. Disons, il y a des politiques qui ont des implications distributives très, très problématiques, parce qu'on va payer les prix pour un choix sociétal, mais pourquoi nous, on doit payer plus que les autres ou être les seuls à être coupés? Comment on peut changer la norme sociale par rapport à l'usage de l'énergie, à la consommation, à l'émission, de manière à éparpiller ses coûts dans la société? Donc ça, c'est une vraie question qu'aujourd'hui se pose. Et je pense qu'il y a des exemples assez important et qui part tout seul. La façon dans laquelle on a dénormalisé la consommation du tabac dans un pays comme la France, on était assez rapide, un peu partout en Europe, on a dénormalisé quelque chose. Au même temps, on a également été assez bon à normaliser des comportements qu'on avait dénormalisés, comme par exemple l'homosexualité. On a réussi à changer la norme sociale en utilisant quoi? Finalement, toute une série d'instruments qui vont bien au-delà de la politique publique. L'effet d'avoir une transmission, d'avoir un podcast, ça alimente la sphère public, les idées circulent et on a besoin des débats publics qui vont au-delà de ce que le média traditionnel nous impose comme choix. C'est un peu la situation dans laquelle on se trouve actuellement.
D'autant plus que les médias traditionnels, ils donnent un temps de parole assez court finalement, donc on a vraiment le temps d'approfondir.
Bien sûr.
Et alors, ça s'appelle The Good Lobby. C'est quoi le good? C'est quoi le bien? Comment on peut définir le bien? Parce que par définition, il y a un biais cognitif énorme sur ce qu'est le bien ou pas le bien. Parce que l'éthique, c'est très... personnel quasiment, c'est souvent culturel, mais ça peut être personnel.
Oui, effectivement, les choix du mot « good » dans les lobbies et le fait d'associer le mot « lobby » à « goodie », c'était évidemment recherché, c'était un oxymore, c'est une provocation. Est-ce qu'un lobbying peut vraiment être bon? Évidemment, le message qu'on voulait faire véhiculer, c'est pas un message « nous, on est les bons et vous, tous les autres lobbyistes, vous êtes des mauvais », tout au contraire. On veut démystifier mais également démocratiser les lobbyings. Donc on veut que tout le monde puisse utiliser les lobbyings comme une voie, comme un instrument d'accès à la justice. Donc finalement, le but de Good Lobby, c'est d'égaliser l'accès au pouvoir, égaliser et donner donc les mêmes opportunités à tout le monde d'avoir l'oreille du décideur politique. D'ici, les mots « good ». Donc « good », pourquoi ?« good » parce que tout d'abord, ce qui est « good », c'est les processus. Au-delà de la thématique qu'on veut porter en avant. Donc c'est une notion de justice sociale qui ne se repose pas sur des valeurs éthiques spécifiques, mais qui se repose plutôt sur une idée qui est une idée procédurale. Il faut assurer que tout le monde puisse agir. Évidemment, lorsqu'il vient chez nous des mouvements qui sont un peu extrêmes et qui sont en train de pousser pour des thèses qui vont à l'encontre des valeurs constitutionnelles, de notre contrat social en France, dans une démocratie libérale, en Europe, on a du mal. Donc s'il y a un groupe qui vient chez nous pour demander de l'aide, pour réduire la liberté des femmes par rapport au droit de l'avortement, on ne va pas les aider. Pourquoi? On ne va pas les aider parce qu'ils pourraient avoir des arguments éthiques ou moraux qui sont valides, qu'on peut écouter, mais ils vont au-delà, donc ils passent une frontière, une ligne rouge que nous avons déjà décidée dans notre système, qui est un système, disons, où il y a une certaine acceptation sociale, que ces comportements sont absolument nécessaires pour la dignité. Ça fait partie de la dignité des femmes de pouvoir disposer de leur corps depuis longtemps. Malheureusement, ces questions-là, aujourd'hui, sont mises en cause, comme vous le savez, en France, mais aussi en Pologne, où il y a des propositions des lois qui visent à restreindre des libertés qui sont des libertés civiles, qui sont acquises, mais apparemment sont fragiles, parce qu'on est en train de les mettre en discussion. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples liés également à la désinformation, donc les problèmes des fausses nouvelles, où également nous assistons à l'émergence de mouvements qui sont en train de légitimer certaines formes de contrôle de la liberté de parole qui sont problématiques aujourd'hui. Et là, il faut trouver une balance, qui est une balance évidemment compliquée à trouver, entre la possibilité de permettre aux gens de s'exprimer et d'exprimer leurs idées, mais en même temps également de limiter que ces formes d'expression puissent abîmer les tissus de notre contrat social et donc déplacer notre démocratie dans un autre espace, les démocraties illibérales, comme M. Viktor Orban, les premiers ministres de l'Hongrie souvent dit, ne sont pas des démocraties. Donc avoir une démocratie libérale, c'est aujourd'hui une vraie contradiction. Mais il y a une acceptation sociale. Il y a des jeunes aujourd'hui qui disent qu'ils aimeraient bien vivre à Singapour ou à Hong Kong ou en Chine parce qu'ils sont très performants. C'est des pays très performants économiquement et donc il y a une certaine attraction pour des formes des gouvernances qui restreint la liberté de parole, mais qui sont très capables de finalement permettre à ces gens de s'épanouir et d'être à l'écoute. Parce que ça, c'est un peu le paradoxe de la Chine. Les gouvernements chinois sont très à l'écoute des gens, mais finalement, c'est les gouvernements qui décident sans trop les écouter.
De toute façon, cela dit, je crois qu'on peut être d'accord pour dire qu'une dictature, c'est hyper efficace. Une dictature, c'est très efficace, mais c'est pas très sympa. C'est pas très agréable pour un certain nombre de personnes. Et cela dit, on voit bien que, alors, il y a un repli sur soi hyper fort partout dans le monde, et en France aussi. On verra bien le résultat des élections, mais c'est vrai que l'extrémisme monte partout, en fait, et ce qui montre bien un repli sur soi. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, en France, on voit bien la volonté d'un homme fort ou d'une femme forte, et dans le même temps une volonté de démocratie très forte aussi. Donc
tout à fait. Il a une vraie tension qu'on peut aujourd'hui même capturer avec des données, c'est-à-dire la démocratie traditionnelle électorale est en train de chuter, donc les taux de participation, comme vous disiez tout à l'heure, devient de plus en plus décevant. Les gens ne sont pas très motivés d'aller voter encore une fois. Mais en même temps, la demande de participation à travers des modèles de participation qui vont au-delà du vote est grandissante. Et ça, c'est une tension qui, en fait, m'amène à dire, et je l'ai dit dans les passés, même à des conseillers du président français, que qu'est-ce qu'on aurait pu avoir en France si on avait eu la capacité d'anticiper les mouvements des Gilets jaunes? Si on avait su capturer de manière constructive ce que les gens voulaient et ressentaient depuis des mois, mais ne savaient pas comment représenter, comment canaliser dans les processus décisionnels, on aurait pu vraiment construire sur cette protestation absolument historique par rapport à des questions que, je répète, sont légitimes. Donc, au-delà, je ne suis pas en train de faire l'apologie des Gilets jaunes en disant que justifie les méthodes des forces, mais ce que je suis en train de faire, c'est faire un pas en arrière et dire, mais comment on aurait pu bénéficier de cette volonté de participation, parce que finalement c'était une forme de participation à la vie commune. Les gens ne pensaient pas seulement à eux-mêmes ou à elles-mêmes, ils pensaient également à la société, à la communauté dans laquelle ils se trouvaient, parce qu'ils étaient en train de tisser des liens. Puis on sait très bien que c'est un segment très particulier à la société française, mais quand même c'est un expériment très intéressant qui a démontré l'inefficacité, surtout l'incapacité de nos systèmes démocratiques de rester à l'écoute et finalement de ne faire rien d'autre que de réagir plutôt que de agir de manière proactive pour anticiper tout cela.
Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que je crois que quand les gens ils disent « je ne vais pas voter », parce que quelque part, ils y croient plus ou moins, mais il y a aussi une question de temps. Quand on parle de lobby citoyen, c'est un engagement de temps. Mais c'est vrai que les Gilets jaunes, en tout cas les gens qui y vont tous les samedis, etc., ils mettent beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens, aux personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le temps de s'engager ?
Cet argument « je n'ai pas le temps », c'est quelque chose que j'entends souvent, non seulement de la part de mes étudiants, mais également de la part de tous les citoyens que j'ai rencontrés un peu partout en Europe. Les Good Lobby organisent des ateliers, des lobbying citoyens partout en Europe. J'étais à Cracovie encore hier, j'étais à Prague la semaine passée. On va être à Lisbonne et à Porto la semaine prochaine. On est un peu partout en Europe. Je suis pas toujours tout seul. C'est mon équipe qui se déplace également. Et on rencontre beaucoup des gens. On rencontre beaucoup des chercheurs d'emploi. On rencontre beaucoup des retraités qui ont beaucoup de temps, par contre. Et puis, on rencontre des gens comme nous, qui sont dans la trentaine, qui ont pas mal des passions. Donc, ils prennent le temps d'écouter un podcast et ils se posent beaucoup de questions. Et ces gens-là, en fait, ils ont un peu de temps. Mais ce temps est finalement monopolisé par un usage un peu, un peu excessif des réseaux sociaux. Mmh. On passe en moyenne, des gens de notre âge passent en moyenne 30 heures par mois sur les réseaux sociaux. Fondamentalement aujourd'hui Instagram, Facebook, peut-être un peu Twitter et d'autres, Snapchat et les autres, c'est énorme. C'est un part-time job. Mais on ne s'y rend pas compte parce qu'à nouveau, l'acceptation sociale est tellement importante que finalement, être dans les réseaux, c'est comme dans les passés, regarder un peu la télé. Donc, comment on peut avoir une prise de conscience qui dit peut-être je peux continuer à utiliser les réseaux sociaux, moi je l'utilise énormément, mais pas en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs. Parce que les minutes supplémentaires que tu passes sur Instagram, l'utilité marginale de ces minutes, évidemment, s'est réduite. Donc, de temps tu passes, moins d'utilité t'en tire. Mais si toi, tu es discipliné, aujourd'hui, tous les arbres sont pratiquement obligés à nous dire à la fin de la journée combien de temps on a passé. Et je vous invite tous à regarder, parce que pour moi, c'était vraiment un moment de prise de conscience totale, lorsque j'ai vu que dans une semaine, j'avais passé 7 heures sur Facebook, que j'avais passé 12 heures sur Twitter. J'utilisais énormément Twitter pour m'informer, mais également des manières un peu, comment dirais-je, de jeu. Et là, à ces moments-là, on se rend compte, on dit, bon, alors si j'utilise cet instrument, je dois l'utiliser pour d'une façon constructive. Donc je dois créer des contenus qui sont utiles, je dois me spécialiser dans quelque chose, je dois devenir un point de repère pour les autres, et donc être utile, utile aux autres, utile à moi-même. Et lorsqu'on intègre cet élément, évidemment, tout le reste change. Parce que déjà, on commence à épargner du temps utile, qui peut être également canalisé par rapport à ta passion. Donc lorsque je rentre dans ces ateliers on débute, je pose toujours la question, quel est le sujet, quel est le thème, quelle est la question qui vous tient réveillé la nuit? Quelle est la question qui vous tient à cœur? De quoi vous souffrez? Et c'est vrai que beaucoup des gens n'ont jamais entendu, personne n'a jamais posé cette question à eux ou à elles. Et donc, ils me regardent avec grands yeux, ils vont réfléchir et puis ils disent, bon, moi, je suis très préoccupé par les changements climatiques parce que je vois déjà chez moi qu'il y a des problèmes sur les territoires. D'autres me disent, non, moi, j'ai un problème parce qu'il n'y a pas d'emploi dans ma région, dans ma ville. Et donc, ils commencent à choisir une bataille. Ils transforment leurs problèmes personnels dans une bataille. Et en ces faisant, ils vont trouver aujourd'hui, grâce au réseau, de manière très facile et gratuitement, presque, plein des gens qui ont exactement les mêmes problèmes, la même sensibilité. Et donc, c'est très facile de faire groupe. C'est comme ça que finalement, notre amie Greta Thunberg a monté ces mouvements. Elle a trouvé des gens qui ont les mêmes sensibilités. Pas tout le monde est dans la rue, mais il y a grandement une masse critique des gens qui les font. Et puis, d'ici là, il faut construire. Donc, la méthodologie qu'on a développée, notamment dans mon livre, qui est une livre qui s'appelle Lobbying for Change. Donc, cette idée qu'on peut faire du lobbying pour changer la société. Find your voice to create a better society. Trouve ta voix pour créer une meilleure société. C'est un livre qui démontre comment, dans 10 étapes, on peut transformer notre passion, peut-être cachée, dans un vrai mouvement qui peut amener la société à changer, à évoluer. Pas simplement avec des lois et des politiques, mais également avec des rencontres. Et donc, humaniser cette capacité de transformation que chacun de nous a et dispose, mais peut-être on n'est pas conscient.
Génial. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ouvrir. Moi, j'aimerais bien ouvrir un débat à la cannabis pour des fins thérapeutiques, tout d'abord.
Thérapeutiques.
Et, excusez-moi mon accent, je suis italien à la base, donc mon français a été appris lorsque j'étais un peu plus âgé. Et claquer la porte, vous pouvez peut-être s'attendre que j'ai dit Facebook et les réseaux sociaux, mais non, pas non. Je pense qu'il faut continuer à les utiliser, mais d'une autre manière, sûrement. Mais j'aimerais bien claquer la porte à quelque chose par rapport auquel on réfléchit pas assez. Et la réponse, c'est les gazons. À savoir toute la verdure qu'on a autour des maisons qui demande beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides. Et je pense que là, il faut changer la norme sociale. Il faut arrêter de normaliser les faits qu'on peut avoir des grandes, grandes surfaces qui sont cultivées à gazon. Les gazons ne servent absolument à rien, à part le fait de rendre nos yeux assez contents et reposés et relâchés. Et on peut en avoir, mais pas de la même manière, parce qu'aujourd'hui, ils représentent une des cultivations les plus étendues au monde, au niveau de la soja, au niveau d'autres produits. Et finalement, on a des externalités, c'est-à-dire on a des coûts sociétaux très importants qu'on ne voit pas, mais si on devait les rendre observables, c'est quelque chose qui pourrait nous faire changer d'avis. Un petit exemple, récemment j'étais à Florence lors d'un événement pour animer un atelier avec des jeunes activistes italiens. Et le matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai pris une douche. Et pour la première fois de ma vie, j'étais en train de prendre une douche qui avait une petite machine qui me disait qui était la consommation d'eau pendant ma douche. Évidemment, j'ai senti une pression énorme, morale, sur le fait que pendant peut-être les premières 2 minutes, j'avais déjà consommé 10 litres d'eau. Et j'avais même pas commencé à utiliser les savons. Alors, le seul fait de rendre observables des comportements qui ne sont pas aujourd'hui observés, ça peut être le tipping point, donc les moments qui déclenchent une prise de conscience. Et cela, il faut le faire par rapport au gazon et il faut le faire également par rapport au cannabis. Donc, se rendre compte que pendant des années, ils nous ont dit que c'était mauvais, on n'avait pas assez d'études scientifiques, on continue à avoir des doutes par rapport aux conséquences découlant d'une consommation continue du cannabis. Mais lorsqu'on parle du cannabis utilisé pour soigner des patients qui souffrent énormément parce qu'ils ont une épilepsie, parce qu'ils ont d'autres pathologies. Alors là, évidemment, il faut sortir de nos tabous, il faut ouvrir la porte à l'expérimentation et permettre afin que le cannabis puisse être consommés de manière contrôlée, évidemment, par les autorités publiques, afin que les malades terminaux, ceux qui finalement souffrent, puissent bénéficier également de cet outil, finalement, pour soulager leur douleur. Le fait de ne pas le faire, c'est une responsabilité partagée dans notre société. Moi, en tant que personne saine à un moment de ma vie, je n'ai aucun droit d'empêcher à une personne qui souffre d'utiliser les cannabis, au contraire. Et donc, c'est des vraies questions aujourd'hui qui se posent, et je pense qu'il faudrait avoir un esprit un peu plus ouvert, au-delà de l'idéologie qui souvent nous empêche d'aborder ces questions de manière informée, basée sur la science, qui d'ailleurs est en train de perdre terrain, et finalement beaucoup plus, disons, plus réfléchi.
C'est marrant parce que le gazon, a priori c'est des plantes, et on a tendance à penser que de planter des plantes de l'espace vert, c'est plutôt positif en fait. C'est vraiment contre-intuitif en fait.
Oui, je pense que c'est important de peut-être développer ces points, parce que je pars du gazon, je ne pars pas des arbres, je ne pars pas du tout de la nature, je pars du gazon même. C'est-à-dire aujourd'hui, on dépense des sommes considérables, je n'ai pas les données avec moi à ce moment, mais des sommes considérables pour acheter chaque année des grains, qui sont des grains d'ailleurs très coûteux, qui appartiennent à des grandes multinationales, qui demandent beaucoup d'eau, mais des chiffres bien au-delà de ma douche, bien évidemment, et des pesticides. Donc on est vraiment en train d'abîmer l'environnement pour un tirer un bénéfice qui est très, très, très modeste. Donc, je ne vais pas montrer un argument qui est simplement instrumental, analyse coût-bénéfice, mais simplement faire réfléchir aux gens sur l'opportunité peut-être de réduire la surface de leur gazon pour en tirer des avantages ou pour les remplacer avec un arbre. Donc, au lieu d'avoir un grain de gazon, on peut avoir un arbre et puis avoir des petits cailloux autour qui peut être également agréable. Il faut s'habituer. C'est également notre goût esthétique qui peut changer au fur des années, au fur du temps.
Ok, super, merci beaucoup.
Merci à vous pour l'opportunité.
Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.